Armand de l'homme d'Ars, dit le baron de Lahontan. Dialogue ou entretien entre un sauvage et le baron de Lahontan. 1703. Du bonheur. Lahontan. Il me semble, mon cher ami, que tu ne viendrais pas de si bonne heure chez moi si tu n'avais envie de disputer encore. Pour moi, je te déclare que je ne veux plus entrer en matière avec toi, puisque tu n'es pas capable de concevoir mes raisonnements. Tu es si fort prévenu en faveur de ta nation, si fort préoccupé de tes manières sauvages et si peu porté à examiner les nôtres comme il faut, que je ne daignerai plus me tuer le corps et l'âme pour te faire connaître l'ignorance et la misère dans lesquelles on voit que les Hurons ont toujours vécu. Je suis ton ami, tu le sais. Et si je n'ai d'autre intérêt que celui de te montrer le bonheur des Français, afin que tu vives comme eux, aussi bien que le reste de ta nation. Je t'ai dit 20 fois que tu t'attaches à considérer la vie de quelques méchants Français pour mesurer tous les autres à leur aune. Je t'ai fait voir qu'on les châtiait. Tu ne te payes pas de ces raisons-là. Tu t'obstines, par des réponses injurieuses, à me dire que nous sommes rien moins que des hommes. Au bout du compte, je suis las d'entendre des pauvretés de la bouche d'un homme que tous les Français regardent comme un très habile personnage. Les gens de ta nation t'adorent, tant par ton esprit que par ton expérience et ta valeur. Tu es chef de guerre et chef de conseil, et, sans te flatter, je n'ai guère vu de gens au monde plus vifs et plus pénétrants que tu l'es, ce qui fait que je te plains de tout mon cœur de ne vouloir pas te défaire de tes préjugés. Adario. Tu as tort, mon cher frère, en tout ce que tu dis, car je ne me suis formé aucune fausse idée de votre religion ni de vos lois. L'exemple de tous les Français en général m'engagera toute ma vie à considérer toutes leurs actions comme indignes de l'homme. Ainsi, mes idées sont justes, mes préjugés sont bien fondés, je suis prêt à prouver ce que j'avance. Nous avons parlé de religion et de loi. Je ne t'ai répondu que le quart de ce que je pensais sur toutes les raisons que tu m'as alléguées. Tu blâmes notre manière de vivre. Les Français, en général, nous prennent pour des bêtes. Les Jésuites nous traitent d'impies, de fous, d'ignorants et de vagabonds. Et nous vous regardons tous sur le même pied. Avec cette différence que nous nous contentons de vous plaindre sans vous dire des injures. Écoute, mon cher frère, je te parle sans passion. Plus je réfléchis à la vie des Européens et moi, je trouve de bonheur et de sagesse parmi eux. Il y a 6 ans que je ne fais que penser à leur état, mais je ne trouve rien dans leurs actions qui ne soit au-dessous de l'homme. Et je regarde comme impossible que cela puisse être autrement, à moins que vous ne veuillez vous réduire à vivre sans le tien et le mien, comme nous faisons. Je dis donc que ce que vous appelez argent est le démon des démons, le tyran des Français, la source des maux, la perte des âmes et le sépulcre des vivants. Vouloir vivre dans le pays de l'argent et conserver son âme, c'est vouloir se jeter au fond du lac pour conserver sa vie. Or, ni l'un ni l'autre ne se peuvent. Cet argent est le père de la luxure, de l'impudicité, de l'artifice, de l'intrigue, du mensonge, de la trahison, de la mauvaise foi et généralement de tous les maux qui sont au monde. Le père vend ses enfants, les maris vendent leurs femmes, les femmes trahissent leurs maris, les frères se tuent, les amis se trahissent, et tout pour de l'argent. Dis-moi, je te prie, si nous avons tort après cela, de ne vouloir point ni manier, ni même voir ce maudit argent. Là, on t'en. Quoi ? Serait-il possible que tu raisonnerais toujours si sottement ? Au moins, écoute une fois en ta vie avec attention ce que j'ai envie de te dire. Ne vois-tu pas, mon ami, que les nations de l'Europe ne pourraient pas vivre sans l'or et l'argent ou quelque autre chose précieuse ? Déjà, les gentilshommes, les prêtres, les marchands et mille autres sortes de gens qui n'ont pas la force de travailler à la terre mourraient de faim. Comment nos rois seraient-ils rois ? Quel soldat aurait-il ? Qui est celui qui voudrait travailler pour eux, ni pour qui que ce soit ? Qui est celui qui se risquerait sur la mer ? Qui est celui qui fabriquerait des armes pour d'autres que pour soi ? Crois-moi, nous serions perdus sans ressources. Ce serait un chaos en Europe, une confusion la plus épouvantable qui se puisse imaginer. Adario. Vraiment, tu me fais là de beaux contes. Quand tu parles des gentilshommes, des marchands et des prêtres, est-ce qu'on en verrait s'il n'y avait ni tien ni mien ? Vous seriez tous égaux, comme les Hurons le sont entre eux. Ce ne serait que les 30 premières années après le bannissement de l'intérêt qu'on verrait une étrange désolation, car ceux qui ne sont propres qu'à boire, manger, dormir et se divertir mourraient en langueur. Mais leurs descendants vivraient comme nous. Nous avons assez parlé des qualités qui doivent composer l'homme intérieurement, comme sont la sagesse, la raison, l'équité, etc., qui se trouvent chez les Hurons. Je t'ai fait voir que l'intérêt les détruit toutes chez vous, que cet obstacle ne permet pas à celui qui connaît cet intérêt d'être homme raisonnable. Mais voyons ce que l'homme doit être extérieurement. Premièrement, il doit savoir marcher, chasser, pêcher, tirer un coup de flèche ou de fusil, savoir conduire un canot, savoir faire la guerre, connaître les bois, être infatigable, vivre de peu dans l'occasion, construire des cabanes et des canots, faire en un mot tout ce qu'un Huron fait. Voilà ce que j'appelle un homme. Car dis-moi, je te prie, combien de millions de gens y a-t-il en Europe qui, s'ils étaient 30 lieues dans des forêts avec un fusil ou des flèches, ne pourraient ni chasser de quoi se nourrir, ni même trouver le chemin d'en sortir. Tu vois que nous traversons 100 lieues de bois sans nous égarer, que nous tuons les oiseaux et les animaux à coups de flèche, que nous prenons du poisson partout où il s'en trouve, que nous suivons les hommes et les bêtes fauves à la piste, dans les prairies et dans les bois, l'été comme l'hiver, que nous vivons de racines quand nous sommes aux portes des Iroquois, que nous savons manier la hache et le couteau pour faire 1000 ouvrages nous-mêmes. Car si nous faisons toutes ces choses, pourquoi ne les feriez-vous pas comme nous ? N'êtes-vous pas aussi grand, aussi fort et aussi robuste ? Vos artisans ne travaillent-ils pas à des ouvrages incomparablement plus difficiles et plus rudes que les nôtres ? Vous vivriez tous de cette manière-là. Vous seriez aussi grands maîtres les uns que les autres. Votre richesse serait, comme la nôtre, d'acquérir de la gloire dans le métier de la guerre. Plus on prendrait d'esclaves, moins on travaillerait. En un mot, vous seriez aussi heureux que nous. Lahontan. Appelles-tu vivre heureux d'être obligé de gîter sous une misérable cabane d'écorce, de dormir sur 4 mauvaises couvertures de castor, de manger que du rôti et du bouilli, d'être vêtu de peau, d'aller à la chasse des castors dans la plus rude saison de l'année, de faire 300 lieues à pied dans des bois épais, abattus et inaccessibles, pour chercher les Iroquois? Aller dans de petits canots, se risquer à périr chaque jour dans vos grands lacs, quand vous voyagez, coucher sur la dure, à la belle étoile, lorsque vous approchez des villages de vos ennemis, être contraint le plus souvent de courir sans boire ni manger, jour et nuit, à toutes jambes, l'un de ça, l'autre de là, quand ils vous poursuivent, d'être réduit à la dernière des misères, si par amitié et par commisération, les coureurs de bois n'avaient la charité de vous porter des fusils, de la poudre, du plomb, du fil à faire des filets, des haches, des couteaux, des aiguilles, des haleines, des hameçons, des chaudières et plusieurs autres marchandises. Adario. Tout beau, n'allons pas si vite. Le jour est long, nous pouvons parler à loisir l'un après l'autre. Tu trouves, à ce que je vois, toutes ces choses bien rudes. Il est vrai qu'elles le seraient extrêmement pour ces Français qui ne vivent comme les bêtes, que pour boire et manger, et qui n'ont été élevés que dans la mollesse. Mais dis-moi, je t'en conjure, quelle différence il y a de coucher sous une bonne cabane ou sous un palais, de dormir sur des pots de castor ou sur des matelas entre deux draps, de manger du rôti ou du bouilli, ou de sales pâtés et ragoûts apprêtés par des marmitons crasseux. En sommes-nous plus malades ou plus incommodés que les Français qui ont ces palais, ces lits et ces cuisiniers? Et combien y en a-t-il parmi vous qui couchent sur la paille, sous des toits ou des greniers que la pluie traverse de toutes parts, et qui ont de la peine à trouver du pain et de l'eau? J'ai été en France, j'en parle pour l'avoir vu. Tu critiques nos habits de peau sans raison, car ils sont plus chauds et résistent mieux à la pluie que vos draps, outre qu'ils ne sont pas si ridiculement faits que les vôtres, auxquels on emploie soit aux poches ou aux côtés autant d'étoffes qu'au corps de l'habit. Revenons à la chasse du castor durant l'hiver, que tu regardes comme une chose affreuse, pendant que nous y trouvons toutes sortes de plaisirs et les commodités d'avoir toutes sortes de marchandises pour leur peau. Déjà, nos esclaves ont la plus grande peine, si tant est qu'il y en ait. Tu sais que la chasse est le plus agréable divertissement que nous ayons, celle de ces animaux étant tout à fait plaisante. Nous l'estimons aussi plus que tout autre. Nous faisons, dis-tu, une guerre pénible. J'avoue que les Français y périraient, parce qu'ils ne sont pas accoutumés de faire de si grands voyages à pied. Mais ces courses ne nous fatiguent nullement. Il serait à souhaiter, pour le bien de Canada, que vous eussiez nos talents. Les Iroquois ne vous égorgeraient pas, comme ils le font tous les jours, au milieu de vos habitations. Tu trouves aussi que le risque de nos petits canots dans nos voyages est une suite de nos misères. Il est vrai que nous ne pouvons pas quelquefois nous dispenser d'aller en canot, puisque nous n'avons pas l'industrie de faire des vaisseaux. Mais ces grands vaisseaux que vous faites ne périssent pas moins que nos canons. Tu nous reproches encore que nous couchons sur la dure à la belle étoile, quand nous sommes au pied des villages des Iroquois. J'en conviens, mais aussi, je sais bien que les soldats en France ne sont pas si commodément que les tiens sont ici, et qu'ils sont bien contraints de se gîter dans les marais et dans les fossés, à la pluie et au vent. Nous nous enfuyons, ajoutes-tu, à toutes jambes. Il n'y a rien de si naturel quand le nombre des ennemis est triple que de s'enfuir. À la vérité, la fatigue de courir nuit et jour sans manger est terrible, mais il vaut bien mieux prendre ce parti que d'être esclave. Je crois que ces extrémités seraient horribles pour des Européens, mais elles ne sont quasi rien à notre égard. Tu finis en concluant que les Français nous tirent de la misère par la pitié qu'ils ont de nous. Et comment faisaient nos pères il y a 100 ans? En vivaient-ils moins sans leurs marchandises? Au lieu de fusils, de poudre et de plomb, ils se servaient de l'arc et des flèches, comme nous faisons encore. Ils faisaient des raies avec du fil d'écorce d'arbre. Ils se servaient des haches de pierre. Ils faisaient des couteaux, des aiguilles, des haleines, etc., avec des os de cerf ou des lins. Au lieu de chaudières, on prenait des pots de terre. Si nos pères se sont passés de toutes ces marchandises tant de siècles, je crois que nous pourrions bien nous en passer plus facilement que les Français se passeraient de nos castors, en échange desquels, par bonne amitié, ils nous donnent des fusils qui estropient en crevant plusieurs guerriers, des haches qui cassent en taillant un arbrisseau, des couteaux qui s'émoussent en coupant une citrouille, du fil moitié pourri et de si méchante qualité que nos filets sont plutôt usés qu'achevés, des chaudières si minces que la seule pesanteur de l'eau en fait sauter le fond. Voilà, mon frère, ce que j'ai à te répondre sur les misères des Hurons. La honte. Eh bien, tu veux donc que je croie les Hurons insensibles à leurs peines et à leurs travaux, et qu'ayant été élevés dans la pauvreté et les souffrances, ils les envisagent d'un autre œil que nous? Cela est bon pour ceux qui n'ont jamais sorti de leur pays, qui ne connaissent point de meilleure vie que la leur, et qui, n'ayant jamais été dans nos villes, s'imaginent que nous vivons comme eux. Mais pour toi, qui as été en France, à Québec et à la Nouvelle-Angleterre, il me semble que ton goût et ton discernement sont bien sauvages de ne pas trouver l'état des Européens préférable à celui des Hurons. Y a-t-il de vie plus agréable et plus délicieuse au monde que celle de nombre infini de gens riches à qui rien ne manque Ils ont de beaux carrosses, de belles maisons ornées de tapisseries et de tableaux magnifiques, de beaux jardins où se cueillent toutes sortes de fruits, des parcs où se trouvent toutes sortes d'animaux, des chevaux et des chiens pour chasser, de l'argent pour faire grosse chair, pour aller aux comédies et aux jeux, pour marier richement leurs enfants. Ces gens sont adorés de leurs dépendants. N'as-tu pas vu nos princes, nos ducs, nos maréchaux de France, nos prélats et 1 million de gens de toutes sortes d'états qui vivent comme des rois, à qui rien ne manque et qui ne se souviennent d'avoir vécu que quand il faut mourir? Adario. Si je n'étais pas si informé que je le suis de tout ce qui se passe en France et que mon voyage de Paris ne m'eût pas donné tant de connaissances et de lumière, je pourrais me laisser aveugler par ces apparences extérieures de félicité que tu me représentes. Mais ce prince, ce duc, ce maréchal et ce prélat, qui sont les premiers que tu me cites, ne sont rien moins qu'heureux à l'égard de Hurons qui ne connaissent d'autre félicité que la tranquillité d'âme et la liberté. Or, ces grands seigneurs se haïssent intérieurement les uns les autres. Ils perdent le sommeil, le boire et le manger pour faire leur cour au roi, pour faire des pièces à leurs ennemis. Ils se font des violences si fort contre nature, pour feindre, déguiser et souffrir, que la douleur que l'âme en ressent surpasse l'imagination. N'est-ce rien, à ton avis, mon cher frère, que d'avoir 50 serpents dans le cœur? Ne vaudrait-il pas mieux jeter carrosse, dorure, palais dans la rivière que d'endurer toute sa vie tant de martyrs? Sur ce pied-là, j'aimerais mieux, si j'étais à leur place, être Huron, avoir le corps nu et l'âme tranquille. Le corps est le logement de l'âme. Qu'importe que ce corps soit doré, étendu dans un carrosse, assis à une table, si cette âme le tourmente, l'afflige et le désole. Ces grands seigneurs, dis-je, sont exposés à la disgrâce du roi, à la médisance de 1000 sortes de personnes, à la perte de leurs charges, au mépris de leurs semblables. En un mot, leur vie molle est traversée par l'ambition, l'orgueil, la présomption et l'envie. Ils sont esclaves de leur passion et de leur roi, qui est l'unique Français heureux par rapport à cette adorable liberté dont il jouit tout seul. Tu vois que nous sommes 1 millier d'hommes dans notre village, que nous nous aimons comme frères, que ce qui est à l'un est au service de l'autre, que les chefs de guerre, de nations et de conseils n'ont pas plus de pouvoir que les autres Hurons, qu'on n'a jamais vu de querelle ni de médisance parmi nous, qu'enfin, chacun est maître de soi-même et fait tout ce qu'il veut sans rendre compte à personne et sans qu'on y trouve à redire. Voilà, mon frère, la différence qu'il y a de nous à ces princes, à ces ducs, etc. Laissant à part tous ceux qui, étant au-dessous d'eux, doivent par conséquent avoir plus de peine, de chagrin et d'embarras. Là, on t'en. Il faut que tu croies, mon cher ami, que comme les Hurons sont assez élevés dans la fatigue et dans la misère, ces grands seigneurs le sont d'eux-mêmes, dans le trouble, dans l'ambition, et ils ne vivraient pas sans cela. Et comme le bonheur ne consiste que dans l'imagination, ils se nourrissent de vanité. Chacun d'eux s'estime dans le cœur autant que le roi. La tranquillité d'âme des Hurons n'a jamais voulu passer en France, de peur qu'on ne l'enfermât aux petites maisons. Note. L'asile des aliénés mentaux à Paris. Être tranquille en France, c'est être fou, c'est être insensible, indolent. Il faut toujours avoir quelque chose à souhaiter pour être heureux. Un homme qui saurait se borner serait Huron, or personne ne le veut être. La vie serait ennuyeuse si l'esprit ne nous portait à désirer à tout moment quelque chose de plus que ce que nous possédons. Et c'est ce qui fait le bonheur de la vie, pourvu que ce soit par des voies légitimes. Adario. Quoi ? N'est-ce pas plutôt mourir en vivant que de tourmenter son esprit à toute heure pour acquérir des biens ou des honneurs qui nous dégoûtent dès que nous en jouissons, d'affaiblir son corps et d'exposer sa vie pour former des entreprises qui échouent le plus souvent? Et puis, tu me viendras dire que ces grands seigneurs sont élevés dans l'ambition et dans le trouble, comme nous dans le travail et la fatigue. Belle comparaison pour un homme qui sait lire et écrire. Dis-moi, je te prie, ne faut-il pas pour se bien porter que le corps travaille et que l'esprit se repose? Au contraire, pour détruire sa santé, que le corps se repose et que l'esprit agisse? Qu'avons-nous au monde de plus cher que la vie? Pourquoi n'en pas profiter? Les Français détruisent leur santé par mille causes différentes, et nous conservons la nôtre, jusqu'à ce que nos corps soient usés, parce que nos âmes, exemptes de passion, ne peuvent altérer ni troubler nos corps. Mais enfin, les Français hâtent le moment de leur mort par des voies légitimes. Voilà ta conclusion. Elle est belle, assurément, et digne de remarque. Crois-moi, mon cher frère, songe à te faire huron pour vivre longtemps. Tu boiras, tu mangeras, tu dormiras, tu chasseras en repos, tu seras délivré des passions qui tyrannisent les Français, tu n'auras que faire de l'or ni d'argent pour être heureux. Tu ne craindras ni voleurs, ni assassins, ni faux témoins, et si tu veux devenir le roi de tout le monde, tu n'auras qu'à t'imaginer de l'être, et tu le seras. Lentin. Écoute, il faudrait, pour cela, que j'eusse commis, en France, de si grands crimes qu'il ne me fût permis d'y revenir que pour y être brûlé. Car, après tout, je ne vois point de métamorphose plus extravagante à un Français que celle de Huron. Est-ce que je pourrais résister aux fatigues dont nous avons parlé? Aurais-je la patience d'entendre les sots raisonnements de vos vieillards et de vos jeunes gens, comme vous faites sans les contredire? Pourrais-je vivre de bouillon, de pain, de blé d'Inde, de rôti et bouilli? Sans poivre ni sel, pourrais-je me colorer le visage de 20 sortes de couleurs comme un fou, ne boire que de l'eau d'érable, aller tout nu durant l'été, me servir de vaisselle de bois? M'accommoderais-je de vos repas continuels où 300 ou 400 personnes se trouvent pour y danser 2 heures devant et après? Vivrais-je avec des gens sans civilité qui, pour tout compliment, ne savent qu'un « je t'honore »? Non, mon cher Adario, il est impossible qu'un Français puisse être Huron, au lieu que le Huron se peut faire aisément français. Adario. À ce compte-là, tu préfères l'esclavage à la liberté. Je n'en suis pas surpris après toutes les choses que tu m'as soutenues. Mais si par hasard tu rentrais en toi-même et que tu ne fusses pas si prévenu en faveur des mœurs et des manières des Français, je ne vois pas que les difficultés dont tu viens de faire mention fussent capables de t'empêcher de vivre comme nous. Quelle peine trouves-tu d'approuver les contes des vieilles gens, comme des jeunes? N'as-tu pas la même contrainte quand les jésuites et les gens qui sont au-dessus de toi disent des extravagances? Pourquoi ne vivrais-tu pas de bouillon de toutes sortes de bonnes viandes? Les perdrix, poulets d'Inde, lièvres, canards, chevreuils, ne sont-ils pas bons rôtis et bouillis? À quoi sert le poivre, le sel et 1000 autres épiceries, si ce n'est à ruiner la santé? Au bout de 15 jours, tu ne songerais plus à ces drogues. Quel mal te feraient les couleurs sur le visage? Tu te mets bien de la poudre et de l'essence aux cheveux et même sur les habits. N'ai-je pas vu des Français qui portent des moustaches, comme les chats, toutes couvertes de cire? Pour la boisson d'eau d'érable, elle est douce, salutaire, de bon goût et fortifie la poitrine. Je t'en ai vu boire plus de 4 fois. Au lieu que le vin et l'eau de vie détruisent la chaleur naturelle, affaiblissent l'estomac, brûlent le sang, enivrent et causent 1000 désordres. Et quelle peine aurais-tu d'aller nu pendant qu'il fait chaud? Au moins tu vois que nous ne le sommes pas tant que nous n'ayons le devant et le derrière couverts. Il vaut bien mieux aller nu que de suer continuellement sous le fardeau de tant de vêtements les uns sur les autres. Quel embarras trouves-tu encore de manger, chanter et danser en bonne compagnie? Cela ne vaut-il pas mieux que d'être seul à table, ou avec des gens qu'on n'a jamais ni vus ni connus? Il ne resterait plus donc qu'à vivre sans compliments avec des gens inciviles. C'est une peine qui te paraît assez grande, qui cependant ne l'est point. Dis-moi, la civilité ne se réduit-elle pas à la bienséance et à l'affabilité? Qu'est-ce que la bienséance? N'est-ce pas une gêne perpétuelle et une affectation fatigante dans ses paroles, dans ses habits et dans sa contenance? Pourquoi donc aimer ce qui embarrasse? Qu'est-ce que l'affabilité? N'est-ce pas assurer les gens de notre bonne volonté à leur rendre service par des caresses et d'autres signes extérieurs? Comme quand vous dites à tout moment « Monsieur, je suis votre serviteur, vous pouvez disposer de moi ». À quoi toutes ces paroles aboutissent-elles? Pourquoi mentir à tout propos et dire le contraire de ce qu'on pense? Ne te semble-t-il pas mieux de parler comme ceci? Te voilà donc. Sois le bienvenu, car je t'honore. N'est-ce pas une grimace effroyable que de plier 10 fois son corps, baisser la main jusqu'à terre, de dire à tout moment « Je vous demande pardon » à vos princes, à vos ducs et aux autres dont nous venons de parler? Sache, mon frère, que ces seules soumissions me dégoûteraient entièrement de vivre à l'européenne. Et puis, tu me viendras dire qu'un Huron se ferait aisément français. Il trouverait bien d'autres difficultés que celles que tu viens de dire. Car supposons que dès demain je me fisse français, il faudrait commencer par être chrétien. C'est un point dont nous parlâmes assez il y a 3 jours. Il faudrait me faire la barbe tous les 3 jours, car apparemment, dès que je serai français, je deviendrai velu et barbu comme une bête. Cette seule incommodité me paraît rude. N'est-il pas plus avantageux de n'avoir jamais de barbe, ni de poils au corps? As-tu jamais vu de sauvage, et qui en es-tu? Pourrais-je m'accoutumer à passer 2 heures à m'habiller, à m'accommoder, à mettre un habit bleu, des bas rouges, un chapeau noir, un plumet blanc et des rubans verts? Je me regarderais moi-même comme un fou. Et comment pourrais-je chanter dans les rues, danser devant les miroirs, jeter ma perruque tantôt devant, tantôt derrière? Et comment me réduirais-je à faire des révérences et des prosternations à de superbes fous en qui je ne connaîtrais d'autre mérite que celui de leur naissance et de leur fortune? Comment verrais-je languir les nécessiteux sans leur donner tout ce qui serait à moi? Comment porterais-je l'épée sans exterminer un tas de scélérats qui jettent aux galères 1000 pauvres étrangers, les Algériens, Saltins, Tripolins, Turcs, qu'on prend sur leurs côtes et qu'on vient vendre à Marseille pour les galères, qui, n'ayant jamais fait de mal à personne, sont enlevés impitoyablement de leur pays natal pour maudire 1000 fois le jour dans les chaînes, père et mère, vie, naissance, l'univers et le grand esprit? Ainsi languissent les Iroquois qu'on y envoya il y a 2 ans. Me serait-il possible de faire ni dire du mal de mes amis, de caresser mes ennemis, de m'enivrer par compagnie, de mépriser et bafouer les malheureux, d'honorer les méchants et de traiter avec eux, de me réjouir du mal d'autrui, de louer un homme de sa méchanceté, d'imiter les envieux, les traîtres, les flatteurs, les inconstants, les menteurs, les orgueilleux, les avares, les intéressés, les rapporteurs et les gens à double intention? Aurais-je l'indiscrétion de me vanter de ce que j'aurais fait et de ce que je n'aurais pas fait? Aurais-je la bassesse de ramper comme une couleuvre aux pieds d'un seigneur qui se fait nier par ses valets? Et comment pourrais-je ne me pas rebuter de ses refus? Non, mon cher frère, je ne saurais être français. J'aime bien mieux être ce que je suis que de passer ma vie dans ses chaînes. Est-il possible que notre liberté ne t'enchante pas? Peut-on vivre d'une manière plus aisée que la nôtre? Quand tu viens pour me voir dans ma cabane, ma femme et mes filles, ne te laissent-elles pas seules avec moi pour ne pas interrompre nos conversations? De même, quand tu viens voir ma femme ou mes filles, ne te laisse-t-on pas seule avec celle des deux que tu viens visiter? N'es-tu pas le maître, en quelques cabanes du village où tu puisses aller, de demander à manger de tout ce que tu sais y avoir de meilleur? Y a-t-il des Hurons qui aient jamais refusé à quelque autre sa chasse ou sa pêche, ou tout ou en partie? Ne cotisons-nous pas entre toute la nation les castors de nos chasses pour suppléer à ceux qui n'en ont pu prendre suffisamment pour acheter les marchandises dont ils ont besoin? N'en usons-nous pas de même de nos blés d'Inde envers ceux dont les champs n'ont su rapporter des moissons suffisantes pour la nourriture de leur famille? Si quelqu'un d'entre nous veut faire un canot ou une nouvelle cabane, chacun n'envoie-t-il pas ses esclaves pour y travailler sans en être prié? Cette vie-là est bien différente de celle des Européens qui feraient un procès pour un bœuf ou pour un cheval à leurs plus proches parents. Si un fils demande à son père ou le père à son fils de l'argent, il dit qu'il n'en a point. Si 2 Français qui se connaissent depuis 20 ans, qui boivent et mangent tous les jours ensemble, s'en demandent aussi l'un à l'autre, ils disent qu'ils n'en ont point. Si 2 pauvres misérables qui vont tout nus, décharnés dans les rues, mourant de faim et de misère, mendient une obole à des riches, ils leur répondent qu'ils n'en ont point. Après cela, Comment avez-vous la présomption de prétendre avoir un libre accès dans le pays du grand esprit? Y a-t-il un seul homme au monde qui ne connaisse que le mal est contre nature et qu'il n'a pas été créé pour le faire? Quelle espérance peut avoir un chrétien après sa mort qui n'a jamais fait de bien en sa vie? Il faudrait qu'il crût que l'âme meure avec le corps. Mais je ne crois pas qu'il se trouve des gens de cette opinion. Or, si elle est immortelle, comme vous le croyez, que vous ne vous trompiez pas dans l'opinion que vous avez de l'enfer et des péchés qui conduisent ceux qui les commettent en ce pays-là, vos âmes ne se chaufferont pas mal. Lentin. Écoute, Adario, je crois qu'il est inutile que nous raisonnions davantage. Je vois que tes raisons n'ont rien de solide. Je t'ai dit 100 fois que l'exemple de quelques méchantes gens ne concluait rien. Tu t'imagines qu'il n'y a point d'Européen qui n'ait quelques vices particuliers cachés ou connus. J'aurais beau te prêcher le contraire d'ici à demain, ce serait en vain car tu mets aucune différence de l'homme d'honneur au scélérat. J'aurais beau te parler 10 ans de suite, tu ne démordrais jamais de la mauvaise opinion que tu t'es formée et des faux préjugés touchant notre religion, nos lois et nos manières. Je voudrais qu'il m'eût coûté 100 castors que tu susses aussi bien lire et écrire que français. Je suis persuadé que tu n'insisterais plus à mépriser si vilainement l'heureuse condition des Européens. Nous avons vu en France des Chinois et des Siamois qui sont des gens du bout du monde, qui sont en toute chose plus opposés à nos manières que les Hurons, et qui, cependant, ne se pouvaient lasser d'y admirer notre manière de vivre. Pour moi, je t'avoue que je ne conçois rien à ton obstination. Adario. Tous ces gens-là ont l'esprit aussi mal tourné que le corps. J'ai vu certains ambassadeurs de ces nations dont tu parles, les jésuites de Paris, me racontèrent quelques histoires de leur pays. Ils ont le tien et le mien entre eux, comme les Français. Ils connaissent l'argent aussi bien que les Français, et comme ils sont plus brutaux et plus intéressés que les Français, il ne faut pas trouver étrange qu'ils aient approuvé les manières des gens qui les traitent avec toutes sortes d'amitié, leur faisant encore des présents à l'envi les uns des autres. Ce n'est pas sur ces gens-là que les Hurons se régleront. Tu ne dois pas t'offenser de tout ce que je t'ai prouvé. Je ne méprise point les Européens en leur présence. Je me contente de les plaindre. Tu as raison de dire que je ne fais point de différence de ce que nous appelons homme d'honneur à un brigand. J'ai bien peu d'esprit, mais il y a assez de temps que je traite avec les Français pour savoir ce qu'ils entendent par ce mot d'homme d'honneur. Ce n'est pas pour le moins un Huron, car un Huron ne connaît point l'argent, et sans argent, on n'est pas homme d'honneur parmi vous. Il ne serait point difficile de faire un homme d'honneur de mon esclave. Je n'ai qu'à le mener à Paris et lui fournir 100 paquets de castors pour la dépense d'un carrosse et de 10 ou 12 valets. Il n'aura pas plutôt un habit doré avec tout ce train qu'un chacun le saluera, qu'on l'introduira dans les meilleures tables et dans les plus célèbres compagnies. Il n'aura qu'à donner des repas aux gentilshommes, des présents aux dames, il passera partout pour un homme d'esprit, de mérite et de capacité. On dira que c'est le roi des Hurons, on publiera partout que son pays est couvert de mines d'or, que c'est le plus puissant prince de l'Amérique, qu'il est savant, qu'il dit les plus agréables choses du monde en conversation, qu'il est redouté de ses voisins. Enfin, ce sera un homme d'honneur, tel que la plupart des laquais le deviennent en France, après qu'ils ont su trouver le moyen d'attraper assez de richesses pour paraître en ce pompeux équipage, parmi les voix infâmes et détestables. Ah, mon cher frère, si je savais lire, je découvrirais de belles choses que je ne sais pas, et tu n'en serais pas quitte pour les défauts que j'ai remarqués parmi les Européens. J'en apprendrais bien d'autres, en gros et en détail. Alors je crois qu'il n'y a point d'état ou de vocation sur lequel je ne trouvasse bien à mordre. Je crois qu'il vaudrait bien mieux pour les Français qu'ils ne sussent ni lire ni écrire. Je vois tous les jours 1000 disputes ici entre les coureurs des bois pour les écrits, lesquels n'apportent que des chicanes et des procès. Il ne faut qu'un morceau de papier pour ruiner une famille. Avec une lettre, la femme trahit son mari et trouve le moyen de faire ce qu'elle veut. La mère vend sa fille, les faussaires trompent qui ils veulent. On écrit tous les jours dans les livres des menteries et des impertinences horribles. Et puis, tu voudrais que je susse lire et écrire comme les Français? Non, non mon frère, j'aime mieux vivre sans le savoir que de lire et d'écrire des choses que les Hurons ont en horreur. Nous avons assez de nos hiéroglyphes pour ce qui regarde la chasse et la guerre. Tu sais bien que les caractères que nous faisons autour d'un arbre pelé en certains passages comprennent tout le succès d'une chasse ou d'un parti de guerre, que tous ceux qui voient ces marques les entendent. Que faut-il davantage? La communauté de biens des Hurons n'a que faire d'écriture. Il n'y a ni poste ni chevaux dans nos forêts pour envoyer des courriers à Québec. Nous faisons la paix et la guerre sans écrit, seulement par des ambassadeurs qui portent la parole de la nation. Nos limites sont réglées aussi sans écrit. À l'égard des sciences que vous connaissez, elles nous seraient inutiles, car pour la géographie, nous ne voulons pas nous embarrasser l'esprit en lisant des livres de voyage qui se contredisent tous, et nous ne sommes pas gens à quitter notre pays dont nous connaissons, comme tu sais, jusqu'au moindre petit ruisseau, à 400 lieues à la ronde. Note. Dans ses mémoires, Lahontan écrit que les sauvages n'ont aucune connaissance de la géographie, ce qui ne les empêche pas de faire les cartes du monde les plus correctes des pays qu'ils connaissent. L'astronomie ne nous est pas plus avantageuse, car nous comptons les années par lune et nous disons « j'ai tant d'hiver » pour dire « tant d'années ». La navigation encore moins, car nous n'avons point de vaisseau. Les fortifications non plus, un fort de simple palissade nous garantit des flèches et des surprises de nos ennemis à qui l'artillerie est inconnue. En un mot, vivant comme nous vivons, l'écriture ne nous servirait de rien. Ce que je trouve beau, c'est l'arithmétique. Il faut que je t'avoue que cette science me plaît infiniment, quoique pourtant ceux qui la savent ne laissent pas de faire de grandes tromperies. Aussi, je n'aime de toutes les vocations des Français que le commerce, car je le regarde comme le plus légitime et qui nous est le plus nécessaire. Les marchands nous font plaisir. Quelques-uns nous portent quelquefois de bonnes marchandises. Il y en a de bons et d'équitables qui se contentent de faire un petit gain. Ils risquent beaucoup. Ils avancent, ils prêtent, ils attendent. Enfin, je connais bien des négociants qui ont l'âme juste et raisonnable et à qui notre nation est très redevable. D'autres, pareillement, qui n'ont pour but que de gagner excessivement sur des marchandises de belle apparence et de peu de rapport, comme sur les haches, les chaudières, la poudre, les fusils, etc., que nous n'avons pas le talent de connaître. Cela te fait voir qu'en tous les États des Européens, il y a quelque chose à redire. Il est très constant que si un marchand n'a pas le cœur droit et s'il n'a pas assez de vertu pour résister aux tentations diverses auxquelles le négoce l'expose, il viole à tout moment les lois de la justice, de l'équité, de la charité, de la sincérité et de la bonne foi. Ceux-là sont méchants quand ils nous donnent de mauvaises marchandises en échange de nos castors, qui sont des pots où les aveugles même ne sauraient se tromper en les maniant. C'est assez, mon cher frère, je me retire au village, où je t'attendrai demain après-midi.